La jeune fille sans main de Sébastien Lodenbach est un surprenant film d'animation entièrement peint à la main et qui est librement inspiré d'un conte méconnu des frères Grimm et de la pièce écrite par Olivier Py, La jeune fille, le diable et le moulin. Ce très beau long métrage raconte l'histoire d'une jeune fille pauvre vendue au diable contre de l'or par son père menuisier. Mais celui-ci n'arrivant pas à s'en emparer parce que cette dernière est trop pure, la laisse partir, ses mains ayant été auparavant coupées. La jeune fille va alors traverser de nombreuses épreuves, rencontrer la déesse de l'eau, être aidée par un doux jardinier et être aimée par un prince. La jeune fille sans main était proposée dans la catégorie découvertes européennes lors de la 17e édition du Arras Film Festival et j'ai eu le plaisir de rencontrer le réalisateur Sébastien Lodenbach pour un entretien autour de son film. Vous avez réalisé déjà plusieurs courts-métrages. Comment on se jette dans le grand bain d'un long-métrage pour la jeune fille sans main? Est-ce un processus difficile? Est-ce que le projet a été longuement réfléchi avant?
Oh, le projet a été... Je ne sais pas s'il a été longuement réfléchi, mais il a une vie assez longue, puisque c'est un projet qui m'a été proposé en fait en 2001 par un producteur qui voulait que j'adapte une pièce de théâtre qui s'appelle La jeune fille, le diable et le moulin, qui est elle-même l'adaptation de ce conte de Grimm. J'ai donc lu la pièce, ce conte, d'autres versions du même conte. Et j'ai développé ce projet avec une équipe pendant 7 ans et puis on n'a pas trouvé assez d'argent pour faire le film. Donc il a été abandonné en 2008. Mais moi, j'arrivais pas à tourner la page, j'arrivais pas à me dire que le projet était abandonné. Donc il fallait que ça continue. Donc j'avais réécrit un petit synopsis pour le faire en bande dessinée. J'ai voulu le faire aussi en film en prise de vue réelle. Enfin voilà, j'y pensais régulièrement en me disant qu'il fallait que j'en fasse quelque chose. Et puis ma femme a été prise comme pensionnaire, elle est cinéaste, elle aussi, elle a été prise comme pensionnaire à l'Académie de France à Rome, plus connue sous le nom de Villa Médicis. Et donc on est parti un an à Rome, et donc c'est là où je me suis dit, ben voilà, c'est peut-être le moment de clore ce chapitre de ma vie. Et donc j'ai repris ce projet, comme je n'avais plus les droits de la pièce de théâtre d'origine, qui est une pièce d'Olivier Py, je suis reparti du conte et de différentes versions, et puis de ce petit synopsis que j'avais écrit, et plutôt que de le faire de façon traditionnelle avec un studio de 40 ou 50 personnes, et ben je l'ai fait tout seul. Donc ça a été effectivement un grand plongeon. Le film fini est très différent du projet initial de 2001. C'est la même histoire, mais pas racontée de la même manière. Les dessins ne sont pas les mêmes, la mise en scène n'est pas la même. Beaucoup de choses sont vraiment différentes. Et en fait, je n'ai pas du tout utilisé ce qui avait été développé pendant 7 ans, parce que je suis reparti de zéro et que j'ai improvisé le film en écrivant avec des dessins en mouvement, à partir du canevas du conte, mais en faisant mon affaire.
Alors justement, bah, vous venez d'en parler, hein, c'est une libre adaptation du conte des frères Grimm. Il n'est pas très connu d'ailleurs ce conte. Olivier Py, donc avec La jeune fille, le diable moulin, comment vous avez, on va dire, coordonné l'adaptation pour ce film sur ces deux versions différentes?
Alors, de façon assez libre et très instinctive, comme je faisais le film tout seul et que j'étais sans production au départ, mon objectif était de me faire plaisir. Il n'y a pas vraiment de coordination, il y a beaucoup d'instincts et beaucoup de choses qui sont arrivées, j'allais dire par hasard ou plutôt par nécessité. Ça faisait quand même des années que je réfléchissais sur ce conte, donc je savais ce que je voulais raconter avec. Il y a quelque chose qui me plaisait dans cette histoire, c'était que à un moment, la jeune fille qui a quitté donc le foyer familial après avoir été maltraitée par son père, qui lui a coupé les mains, disons-le, arrive à un château et elle rencontre un prince. Alors on se dit, bon voilà, encore une histoire de prince et de princesse. Sauf que là, en fait, on est au début du film et qu'on se rend compte plus tard que c'est pas la panacée d'être une princesse et qu'il vaut mieux être une femme entière qu'une princesse sans main. Et ça, c'est ce qui m'a parlé dans cette histoire.
C'est à la fois un conte cruel et poétique sur, entre autres, les conséquences de la cupidité. Comment avez-vous scénarisé le film pour faire passer cette vision un peu métaphorique de la noirceur de la nature humaine?
Eh bien, je ne l'ai pas scénarisé. Voilà, donc, comme je disais, le film a été écrit avec des dessins. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de scénario. J'ai vraiment pas du tout utilisé le scénario. Donc, c'est une espèce de processus d'écriture automatique, assez étrange, assez inédit aussi. On fait pas de film d'animation comme ça, surtout pas de long métrage. Donc, j'ai fait le film dans l'ordre chronologique. pour moi, plus que la cupidité du père, il est en proie à un trouble intérieur. C'est le moment où il voit bien que sa petite fille chérie est en train de devenir une jeune fille et donc une future femme. Et donc c'est là où son regard sur elle change. Pour moi, l'idée de la richesse, parce que donc il y a ce pacte avec le diable qui lui promet la richesse en échange de ce qu'il y a derrière son moulin. Et il signe le pacte sans savoir que derrière son moulin, il y a sa fille. Donc il vend sa fille au diable. Mais le diable, pour moi, c'est son diable à lui, c'est son démon intérieur. C'est son impossibilité à accepter le fait que cette petite fille va partir, va faire sa vie. Et en fait, en signant ce pacte, il précipite en fait son propre malheur, puisque, bon, je ne vais pas raconter le film, mais en gros, tout ça fait que la jeune fille quitte de toute façon le moulin et que lui va se punir lui-même d'avoir agi d'une telle façon. Donc je n'ai pas scénarisé le film parce que sans doute j'étais très imprégné de cette histoire, je la possédais en fait complètement, et en même temps, comme il y a une sorte d'écriture automatique, il y a à bien des égards et à plein de moments, le film a été plus fort que moi et a imposé sa propre vision. Ce qui est assez étonnant quand on fait de l'animation, puisque c'est une technique très lente, et donc on peut penser que voilà, à faire quelques secondes par jour, on maîtrise ce qu'on fait, et bien là j'ai essayé de me mettre dans une condition différente, où j'étais moi-même maîtrisé, et le film bien souvent m'a entraîné sur des chemins qui ne sont pas écrits dans le conte, ni dans le conte d'origine, ni dans la pièce d'Olivier Py, ni dans aucun texte préparatoire que j'ai pu faire, mais voilà, il a pris sa propre vie, quoi.
Es-tu affamé à ce point? N'as-tu pas de pain?
Je n'ai ni pain, ni eau. Ma bourse est aussi sèche que la rivière qui entraîne mon moulin.
Je peux remplir ta bourse si tu me donnes ce qu'il y a derrière ton moulin.
Mon pommier?
Ce qu'il y a derrière ton moulin.
Mais sans mes pommes, je n'aurais vraiment plus rien à manger.
Pourquoi se nourrir de pommes quand on est riche? Si tu as soif de richesse, alors... bois.
Il y a d'autres aspects de la noirceur humaine qui sont évoqués dans ce film sur des thématiques presque similaires. Pouvez-vous nous en parler un petit peu? Je pense à l'isolement, la solitude aussi.
Alors pour moi, l'isolement, la solitude, c'est la partie joyeuse du film. C'est là où la jeune fille trouve finalement sa place dans le monde. Elle a besoin de cet isolement. C'est ce que raconte ce conte. Hein. C'est que souvent les femmes et les hommes aussi, là, c'est une trajectoire féminine. C'est un film très féminin. Pour moi, c'est même un film féministe. Mais ça touche à la part féminine de tout un chacun. Moi, je me suis beaucoup reconnu dans la trajectoire de cette jeune fille. C'est-à-dire que moi aussi, je suis allé vers des relations sentimentales qui peut-être me détruisaient, par exemple. Il me semble que c'est pas quelque chose qui est partagé par beaucoup de gens et que quelquefois la solitude, l'isolement et le temps font qu'on se comprend mieux, on se connaît mieux et donc on accepte mieux l'autre. Et il me semble que ça, c'est le travail d'une vie. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai été intéressé. La cruauté, puisqu'on parlait de ça, c'est vrai que les contes sont cruels. Ce conte-là est particulièrement cruel, mais finalement, si on prend le petit Pousset avec l'ogre qui égorge ses 8 filles, c'est quand même monstrueux. Très souvent, les adaptations de contes au cinéma et en particulier en animation, ce sont des adaptations relativement édulcorées. Moi, je crois au contraire qu'il faut affronter cette cruauté. Donc oui, je l'affronte de manière frontale. Pour moi, c'est un film d'ailleurs pour le jeune public, hein, pour tous les publics. Voilà, et donc il y a beaucoup d'aspects sombres et cruels dans le conte, mais il se termine de manière lumineuse.
Justement, je pensais que si on pouvait dire que votre film, c'est un film féministe, parce qu'elle arrive quand même à s'émanciper d'un monde d'hommes, finalement, et elle s'en sort avec son propre destin.
Exactement, exactement. Bah, vous avez tout dit. Oui, tout à fait. Non, mais c'est vrai que c'est un film, c'est une histoire, c'est un conte qui raconte ça. Alors moi, puisqu'on parlait d'adaptation, moi c'est quelque chose que j'ai un peu poussé. Par exemple, il y a l'histoire du jardin. Elle utilise son handicap comme un outil, finalement. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas dans le conte et qui me semblait vraiment intéressant. Parce que c'est un personnage, en fait, qui est effectivement dirigé par une sorte de destin. Donc, d'un point de vue purement dramaturgique, c'est un personnage assez faible. C'est-à-dire que ce n'est pas un personnage qui agit beaucoup. Elle est très... trimballer en fait en fonction des rencontres qu'elle fait, comme très souvent dans les contes. Elle a deux actions décisives. La première, c'est de quitter la maison familiale. Donc ça, c'est quand même quelque chose, une vraie volonté de sa part. Même si après, donc, elle arrive dans un château où, dans lequel elle s'illusionne un peu et elle va se rendre compte que, bah, que c'est d'un ennui mortel d'être une princesse. Et puis en plus, le prince, il est parti faire joujou avec ses copains. Donc voilà, c'est pas très folichon. Et elle quitte ce château bien malgré elle. Elle a besoin d'aide, de soutien, mais ça aussi, il me semble, enfin moi, ça me parle parce que je crois qu'on a souvent besoin de proches qui nous donnent un peu la bonne direction. Et le deuxième moment où elle agit, c'est plutôt vers la fin du film où elle décide d'utiliser son handicap comme un atout et comme un outil. Et c'est là où elle plante ce jardin, elle le cultive, elle le fait fructifier, etc. Et qui me semblait être une métaphore assez belle de cette émancipation, effectivement. Donc oui, pour moi, c'est un film féministe.
Je suis le maître de cette maison. Qui êtes-vous ?
Te souviens-tu du pacte de la forêt ? Cet or n'est-il pas rafraîchissant ? Oui, j'en suis ravi. Je viens chercher mon dû. Cela ne prendra qu'un instant. Ah ! Elle est trop propre. Je ne peux pas l'emporter. Empêche-la de se laver, tu m'entends ? Comme cet or, je la veux, sale. À bientôt. Si tu veux garder ton or, fais ce qu'il faut.
Pour rester sur les personnages, deux personnages évidemment pour moi centraux sont très intéressants, notamment bah, le diable, le personnage du diable. En fait, il change beaucoup de formes, il prend des formes animales, le cochon, le corbeau, il prend des formes humaines aussi, un vieil homme, une femme, voire même un enfant. Il apparaît plus comme un faune en fait qu'un démon. Est-ce que c'était aussi une manière de personnifier un peu différemment ce personnage ?
Oui, oui, absolument. Le conte d'origine, en tout cas la version de Grimm est très 19e siècle. Hein. Elle est très empreinte de chrétienté. Il y a donc le diable et il y a un ange gardien. Donc j'ai plus d'ange gardien, moi. J'ai une déesse de l'eau. Je voulais faire un film qui soit plus ancré dans des mythes plus anciens, en fait, et donc plus paganique, plus proche de la nature. Il y a tout un travail sur le cycle. Ça se perçoit pas forcément, mais il y a quand même les quatre saisons. Il y a le cycle de l'eau, j'ai fait en sorte que ce soit un moulin à eau. C'est pas précisé dans le conte si c'est un moulin à eau ou un moulin à vent. Et je voulais absolument que ce soit un moulin à eau parce que l'eau, d'abord, pour moi, c'est un élément féminin très fort. Et puis, il y a une idée de cycle, on peut remonter le courant pour revenir à la source. Enfin, ça me semblait vraiment, vraiment important. Et donc, le diable est uniquement dans cette version-là, puisque dans les versions précédentes, donc dans la première version de 2001 que j'ai développée pendant 7 ans, c'était pas comme ça. Voilà, c'est effectivement plus un faune qu'un diable. Et au fond, le diable, c'est quoi ? C'est le mal gratuit, c'est le mal incarné. Et finalement, ce mal, il peut être un peu partout. J'avais un peu déstabilisé une jeune spectatrice de 8 ans lors d'une précédente projection qui me parlait de ça. Il me disait, mais pourquoi le diable, il a plein de visages comme ça ? Et je lui disais, mais parce que je crois que le mal, il est potentiellement chez tout le monde, même chez toi. Même chez moi, voilà. Alors elle a été un peu surprise que je lui dise même chez toi, mais voilà, je lui dis c'est potentiellement.
Il y a le jardinier aussi qui a un rôle pour moi essentiel. Ses agissements envers cette jeune femme, est-ce qu'il la libère pour la sauver, la protéger elle, ou c'est juste par conviction que le prince, eh bien, on lui a fait une entourloupe ?
Très intéressante question, je suis très content que vous me parliez de ce jardinier, on ne m'en parle jamais.
Mais c'est même lui qui donne des graines d'ailleurs pour pouvoir faire le jardin.
Voilà. C'est lui qui donne des graines, ça c'est quelque chose que j'ai rajouté, mais dès la première version d'ailleurs. Ce personnage du jardinier, il est intéressant, il n'est pas dans le conte. Il est dans la pièce d'Olivier Py par contre. Dans le conte, c'est la reine, c'est la mère du prince. Ça raconte pas tout à fait la même chose. Moi, j'ai été plus intéressé par le jardinier, c'est un personnage que je trouve très tendre. Pour moi, la jeune fille, elle croise des guides sur sa route. Donc le premier guide, c'est cette déesse de l'eau. Et le deuxième, c'est ce jardinier dont on se demande d'ailleurs s'il n'est pas un peu amoureux de cette jeune fille. Et il le fait par tendresse, en fait. Pour lui, c'est plus fort que lui. Et je trouvais ça plus intéressant qu'une reine qui serait comme ça, une espèce de belle-mère. Le jardinier, c'est un jeune garçon. Il est peut-être un peu plus âgé que le prince et la princesse, mais voilà, c'est quelqu'un de la même génération. Quelque part, c'est lui qui fait un vrai sacrifice, en fait. Parce que, alors, c'est vrai qu'il sauve la jeune fille, mais en même temps, il lui dit de partir et il sait certainement qu'il la reverra jamais. Or, il est vraisemblablement épris d'elle, il fait un portrait d'elle avec ses mains. Voilà, c'est un peintre, c'est un jardinier poète et peintre. C'est un personnage qui amène beaucoup de douceur dans le film, plus sans doute qu'une reine.
Princesse, prenez ceci. Ce sont des graines qui viennent d'un nouveau monde. On dit qu'ils sont magiques. Ce sera comme un souvenir de moi.
Jardinier, je ne peux pas croire que ce que tu dis est vrai. Mon prince ne peut t'avoir donné un tel ordre.
Et pourtant, tel est le message que j'ai reçu. Partez. Partez vite.
En ce qui concerne la technique d'animation que vous avez choisie, le dessin peint à la main, vous en parliez tout à l'heure, ça donne une esthétique où les couleurs explosent littéralement sous nos yeux, l'image respire énormément. Il y a une hyper grande fluidité de mouvement, de frémissement, on va dire, comme si vous n'imposiez rien au spectateur, et c'est à lui de laisser son imaginaire raconter l'histoire, tout simplement.
Oui, absolument. Il y a des trous dans le dessin. Il y a des trous dans le dessin que le cerveau et l'œil de chacun des spectateurs doit combler. Alors, ça demande une petite attention. Je sais que certains sont un peu déroutés dans les premières minutes, mais tout le monde me dit que finalement, on rentre dans le film, on rentre dans l'histoire, on rentre dans la trajectoire de cette jeune fille, ce qui est d'abord une vraie découverte pour moi, parce que je ne m'y attendais pas. J'étais persuadé que tout le monde rejetterait ce film, vu justement l'esthétique assez inédite de l'animation proposée. Je vais peut-être pas rentrer dans les détails, mais c'est vrai que cette esthétique-là met le spectateur dans une position de confiance, où je lui dis « vas-y, interprète, travaille, avance avec le film ». Et c'est quelque chose qui se retrouve aussi dans la narration. Il y a des zones d'ombre dans la narration. Moi, il y a des choses que, quelquefois, quand je lis des contes, je comprends tous les mots, mais je comprends pas forcément ce qu'il y a derrière. Je sais que les contes sont des métaphores, mais quelquefois, je les comprends pas. C'est quand même tout ça assez mystérieux et assez caché. Et dans le film, je voulais absolument garder ça. Il y a des zones que moi-même, je ne comprends pas, des moments de l'histoire que je ne comprends pas. Dans le film, j'ai mon interprétation et je laisse le soin au spectateur d'interpréter aussi comme il le désire. Et pour moi, c'est vraiment très important. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui s'est un peu perdu au cinéma. Et en particulier, quand on parle de cinéma pour le jeune public. Quand je montre le film à des enfants, la question du jeune public se pose par rapport à ce film. Pourquoi ? Parce que la structure narrative ne correspond en rien à tous les canons, tous les archétypes qu'on a là depuis des années. Pour les films pour les enfants et notamment les films d'animation qui sont tous basés grosso modo sur le même modèle où c'est un peu des aventures avec des personnages rigolos, va y avoir de l'émotion, du gag, de l'action, etc. Ils sont tous pareils, ils peuvent être très bien, c'est pas un jugement de valeur, mais quand même il y a un modèle qu'on retrouve là, on est en dehors de ces modèles là et en fait je vois que les enfants justement ils aiment ce mystère, ils posent des tas de questions, ils interprètent, ils font leur propre film. Moi je trouve ça nécessaire, absolument nécessaire pour tout le monde.
Alors, sans vouloir faire de comparaison précise, vos dessins évoquent un peu l'univers de Matisse. Vous êtes d'accord avec ce point de vue ou...
Il va bien falloir que je sois d'accord puisque tout le monde m'en parle. Alors ça me touche beaucoup évidemment. Moi je me suis pas inspiré de Matisse, mais je me suis inspiré d'autres peintres pour les couleurs. Mais écoutez, merci.
J'ai encore deux petites questions et là ça concerne plutôt. Alors le casting, forcément on va parler un peu du casting des voix parce que c'était important aussi. Je pense que les voix sont très très bien choisies.
Pour moi c'était un moment assez incroyable, d'autant plus que je vous disais que moi je vis avec cette jeune fille depuis 2001. Alors non seulement elle n'a pas de main, mais en plus elle n'avait pas de voix. Donc elle était manchotte et muette. Ça commençait à faire beaucoup de handicap. Et quand j'ai fait le film, donc comme je disais, il a été improvisé, donc je savais qu'il y avait des scènes dans lesquelles les personnages devraient parler. Mais je ne savais pas exactement ce qu'ils se disaient, parce que donc je n'avais pas de scénario. J'ai écrit les dialogues à la fin. Je m'enregistrais moi-même au dictaphone, je mettais ma voix sur les séquences où il y avait des dialogues, je regardais comment ça marchait, je refaisais le montage, je changeais des animations, etc. Donc le film était constamment ouvert et puis à un moment il a bien fallu choisir des voix et se dire que je ne ferais pas tout. Et pour la voix de la jeune fille, j'ai fait une sorte de casting, c'est-à-dire que je suis allé chercher des bandes-annonces sur Internet avec des jeunes actrices. Voilà, et je les ai collées sur mon visage, enfin sur le visage de la jeune fille en synchronisant les lèvres. Donc j'ai 7 ou 8 séquences identiques, le dessin est le même, mais la voix à chaque fois est différente. Et j'ai montré ça à mon producteur et à ma femme, et les deux m'ont dit la numéro 3, c'est super. Et c'était Anaïs de Moustier. Et quand elle est venue enregistrer, c'était extraordinaire. C'était extraordinaire parce qu'on a commencé par enregistrer des respirations. Parce qu'au début du film, elle lave le linge, donc elle ne parle pas, mais on sent sa présence. Et enfin, cette jeune fille existait grâce à ses respirations, grâce à cette voix. Et voilà. Et puis Jérémy Elkaïm pour Le Prince. Moi, je le connais en tant qu'acteur parce que j'ai vu tous les films de Valérie Donzelli. Voilà, il a une vraie voix de prince, Jérémy. Il a une voix d'une grande douceur. Puis c'est un peu un sex symbole aussi, il faut le dire. Voilà, quand je dis à mes étudiantes que j'ai travaillé avec Jérémy, elles font « Ah, Jérémy !» Voilà, c'est... Et il a été adorable, ils ont été adorables tous les deux. Et en plus, j'ignorais qu'ils attendaient tous les deux dans la vraie vie un enfant qui est né quelques temps après l'enregistrement des voix. Donc voilà, j'avais un prince et une princesse, ou plutôt un homme et une femme avec moi, et ça a été des partenaires formidables. Tous les autres comédiens ont été super. J'ai des relations avec chacun d'entre eux. Elina Lovenson, qui fait la voix de la déesse, c'est une amie de longue date. J'ai souvent fait appel à elle pour des voix, pour des précédents courts-métrages. Françoise Lebrun, je la connaissais pas particulièrement, mais je connaissais son travail, évidemment. Et puis, voilà, pour moi, c'était une grande dame du cinéma et du théâtre. Et ça a été une sorte d'évidence. Et puis Philippe Laudenbach, j'avais jamais travaillé avec lui. On est donc de la même famille, un peu éloigné, mais voilà, on est deux de la même famille à faire du cinéma. C'était quand même dommage de pas se réunir pour ce film. Et puis, il a une vraie voix de diable incroyable. Oui, ouais, et Sacha Bourdeau pour Le Jardinier. C'était drôle, Sacha Bourdeau, parce que je l'ai vu dans un film de Gondry. Je me suis dit, lui, d'abord, on s'était déjà rencontré il y a 15 ans, et puis je me suis dit que c'était une bonne voix, et lui, il était absolument persuadé du contraire. Quand il a vu le personnage du jardinier, il a dit, mais c'est pas moi ça. Je lui ai dit, mais on va essayer. Tu vas me faire une voix comme si t'étais une femme. Et ça a marché. Et il était ravi. Il était très content. Et moi, je suis très content qu'il soit là. Voilà.
Comment se fait-il qu'une fille si jeune rejoigne le fond de mon lit ? Es-tu là pour mourir ?
Au contraire, je ne désire rien d'autre que de vivre. Il y avait des poires, je voulais juste en manger une.
Les poires sont dans un verger, le verger dans un jardin. Ce jardin est celui d'un prince. Tu n'es donc pas ici par hasard.
La musique. Composé par Olivier Mélano, qu'on connaît bien d'ailleurs sur le festival, puisqu'il était venu animer un ciné-concert, un duel de Steven Spielberg. Oui. Pareil, c'est un ami à vous, vous l'avez rencontré comment ?
Je l'ai rencontré au moment où il créait justement ce ciné-concert de duel, au festival du moyen-métrage de Brive. Il faisait une petite résidence et moi j'y allais pour présenter un moyen-métrage, je ne sais plus lequel, enfin bref. Donc je l'ai rencontré dans un café. Et on a passé 3 jours à parler tous les deux. Et puis à la fin des 3 jours, j'ai vu Duel, j'ai adoré. Et je me suis dit, je veux travailler avec ce garçon. Donc j'ai fait un précédent court-métrage qui s'appelle Vasco, que j'ai fait pour pouvoir travailler avec lui pratiquement. Et puis il a fait une autre musique pour un autre de mes films. C'est un type extraordinaire. D'abord, il a beaucoup de talent. Il en a un parmi d'autres qui est qu'il est d'une extrême gentillesse, d'une grande disponibilité. Il a 1000 vies, moi je ne sais pas comment il vit, mais il est tout le temps sur les routes, il est tout le temps en train de faire 1000 trucs avec 1000 collaborateurs, des trucs insensés. Là, il vient de faire une pièce pour Bagade, donc un ensemble de Binouet de Bombarde, je sais pas, ils doivent être 40, ça doit dépoter. Lui, il a sa guitare électrique et il y a Brendan Perry, le chanteur de Dead Can Dance, qui accompagne tout ça. Donc voilà, j'ai pas entendu, mais j'imagine que ça doit casser la baraque. J'ai fait des performances avec lui d'animation en direct pendant que lui joue de la musique, enfin voilà, on s'entend très bien. Et dès qu'on a commencé à travailler ensemble, je sais pas, sa musique électrique sur mes dessins si naturels, ça marche, il y a un équilibre qui se fait, il y a quelque chose d'un peu magique en fait, que j'explique pas, mais je vois que ça se transmet aux spectateurs, puisque beaucoup de gens viennent me parler de la musique, donc je suis vraiment ravi.
C'était un entretien avec Sébastien Laudenbach, réalisateur du film d'animation La jeune fille sans main, qui était proposé dans le cadre de la 17e édition du Arras Film Festival en catégorie Découvertes européennes.
No more lips, no more cheeks, no more eyes, no more, no more legs, no more neck, no more back, no more, no more breast, no more tongue. No more hands. I'm a wild girl.
Thank you.